9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé, une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Et Linda Benjaffer est avec nous. Bonjour Linda.
Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes.
Psychologue, conseillère d'orientation, nous parlons ce matin de l'estime de soi chez les enfants et comment les parents que nous sommes peuvent aider leurs enfants à construire une bonne estime de soi. Ce sont des termes qu'on emploie souvent, la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on prend souvent les uns pour les autres et pourtant ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas réellement la même chose. Tout est intriqué, effectivement, mais ce n'est pas la même chose dans le sens où, à mon sens, l'estime de soi est déjà avant tout la valeur que nous pouvons nous attribuer. Quelle est la valeur que nous attribuons en fonction, effectivement, de ce que nous avons pu lire dans les yeux de nos parents, puis ensuite dans les yeux de nos pères. Mmh. Et donc, il est important de comprendre que c'est à partir du moment où nous avons une belle image de soi, nous connaissons notre valeur, que nous allons pouvoir fonder, créer notre confiance en nous, qui va être le corollaire, effectivement, de l'estime de soi. Donc, c'est deux choses différentes. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous accordons. Et nous pouvons dire que la confiance en soi, c'est vraiment le sentiment de sécurité que je suis capable, parce que j'ai de la valeur, je connais ma valeur, je suis capable. Et donc, c'est ce qu'on appelle la confiance dans l'action. C'est l'estime de soi dans l'action qui est la confiance en soi, à mon sens.
Bon, alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer sa propre valeur ?
Alors déjà, savoir effectivement si lorsque je suis face à certaines choses au quotidien de la vie, comment est-ce que je m'évalue ? Est-ce que je pense que je suis capable ou pas ? Quelles sont mes capacités effectivement ? Est-ce que j'ai conscience de mes compétences ou pas ? Est-ce qu'effectivement je suis dans l'autodénigrement quotidien ? Est-ce que dans mon langage intérieur, je suis toujours en train de me dire « Non, en fait, non, j'y arriverai pas, mais ça, c'est pas pour moi. Là où lui arriver, mais moi, j'y arriverai jamais. C'est juste pas possible. » Ou c'est un enfant qui va dire à longueur de temps, mais je suis nul, mais je n'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Et c'est vraiment dans le langage extérieur qu'on va comprendre le langage intérieur, qui est vraiment de l'auto-dénigrement, voire de l'auto-flagellation, etc. Donc c'est important tout de suite d'aller vers cet enfant-là, quand c'est de l'enfant, de lui dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'à ton avis, tu penses que tu n'y arriverais pas ? Pourquoi est-ce que là où d'autres y arrivent, tu n'y arrives pas ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Et vraiment pouvoir, parce que ça reste un sentiment très très global, et il est important de toujours aller dans le détail, à lui demander, mais qu'est-ce qui fait que tu dis que je suis nul en mal ? Qu'est-ce qui fait que tu dis que je suis un mauvais élève. Et ben en fait, c'est la maîtresse qui me l'a dit. Et on se rend compte effectivement qu'il y a eu en écho des paroles d'adultes autour d'eux qui les ont dénigrés, humiliés, mais ça peut être malheureusement les propres parents en fait, qui eux-mêmes en règle générale n'ont pas une très belle estime de soi et qui sont, donc, comme je le dis très régulièrement, dans la reproduction des schémas parce qu'eux-mêmes ont été dénigrés et arrivent à le faire un petit peu trop régulièrement vis-à-vis de l'enfant.
Alors on élève ces enfants et on construit aussi, on les aide à se construire leur propre estime d'eux-mêmes, l'estime de soi. Ça commence à quel âge, Linda ?
Très très tôt, en fait. Très très tôt. Il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que tout petit déjà, l'enfant, à partir de 18 mois et 2 ans, comme je disais la dernière fois, c'est un âge où il va devoir s'affirmer. Pour pouvoir affirmer sa personnalité, il va s'imposer, il va dire le non. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va lui dire, qu'on va accepter qu'il puisse dire non, d'accord, pour pouvoir fonder sa personnalité, en lui disant oui, je sais que tu es capable, il n'y a aucun souci, je sais, je connais ta valeur. Ça, c'est très important, parce que vraiment, le préalable à toute estime de soi et à confiance de soi, voire à l'affirmation de soi dont on parlera, c'est vraiment la valeur. Je connais ta valeur. Et dire ça à un enfant très jeune, c'est très important, parce que vraiment, ça va l'impacter, dans le sens où oui, j'ai de la valeur pour ma maman, oui, j'ai de la valeur pour mon papa. Et très tôt lui dire, ok, je sais que tu es capable, sauf que là, c'est non. Tu me dis non, mais moi je reste adulte, donc c'est très important de toujours être dans la frustration, toujours lui mettre des limites, mais en lui disant je sais que tu es capable. Sauf qu'aujourd'hui là c'est pas le moment, c'est pas l'heure, etc. Et donc le laisser vraiment exprimer son identité, hein, lui disant mais non, moi je suis capable de faire tout seul, je sais, sauf que c'est pas le moment. C'est-à-dire le frustrer, mais tout en lui disant combien je sais que tu as de la valeur. De la même façon, lorsque tout petit, il va apporter des notes, que ce soit en maternelle ou que ce soit à l'école élémentaire, dès qu'il a une note un petit peu basse ou la DC, tu sais, ça ne te vaut pas. Pour moi, ça ne te vaut pas. Et ça, le dire tout le long de sa scolarité, c'est très important de lui dire, je connais ta valeur, là, c'est juste un accident de parcours. Je sais que tu vaux mieux que ça et que tu vas apporter mieux que ça parce que je te connais. Et ça, c'est un discours vraiment latent qui doit et manifeste, qui doit être là au quotidien vis-à-vis de son enfant. C'est ce qui va faire que, puisque je vois dans les yeux de mes parents que j'ai de la valeur, effectivement, je vais m'attribuer cette valeur.
Alors, comment est-ce qu'on la construit, l'estime de soi ?
je vous dis, là, l'estime de soi, elle commence vraiment par un sentiment de compétence. C'est-à-dire que plus je vais mettre mon enfant face à des réussites, à des capacités, à des compétences, le faire réussir, peu importe, soit dans le domaine sportif, dans le domaine artistique ou à l'école, lui permettre de réussir quelque chose, c'est ce qui va faire que ça va nourrir sa valeur, en fait. Plus je vais réussir, plus j'aurai envie de réussir, plus je me sentirai capable et plus j'avancerai, en fait. Et donc, c'est vraiment le mettre dans des situations où, mais tu vois que tu y es arrivé, et ne pas toujours le frustrer, mais attention, ça, tu vas tomber, mais attention, ça, tu n'y arriveras pas, etc. Et toujours le freiner dans ses capacités, dans le développement de ses compétences. C'est vraiment lui dire, je sais que tu es capable, vas-y. Et puis, si tu tombes, peu importe, je serai là, de toutes les façons. Fais attention, mais je serai là. Et c'est vraiment le nourrir au quotidien et le mettre face à des moments où il va pouvoir exprimer ses capacités, qui va vraiment s'auto-nourrir de ça.
Donc finalement, l'estime de soi, c'est pas inné.
Non, elle n'est pas innée, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle peut s'éduquer et elle se développe chaque jour, et même à l'âge adulte, en fait, elle continue à se développer. Donc il est dit, effectivement, et ça j'en suis persuadée, qu'elle est beaucoup en relation aussi avec les relations précoces mère-enfant. Vous voyez, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Et c'est vrai qu'à partir du moment, donc il y a trois types, en gros, pour pas rentrer dans les détails, mais il y a trois types d'attachement, c'est-à-dire l'attachement sécure, l'attachement insécure et l'attachement ambivalent. Donc tout dépend de la relation précoce mère-enfant, depuis la naissance jusqu'on va dire les deux, trois premières années de la vie, où est-ce que la maman était présente réellement et elle répondait aux besoins de l'enfant lorsqu'il avait un besoin, ou est-ce que la maman était présente mais malheureusement elle-même allait mal parce qu'elle était en dépression, etc. Et donc du coup je suis là sans être là, et donc ça va créer de l'ambivalence, je sais pas, est-ce que je peux vraiment compter sur maman, un jour elle répond favorablement, un jour elle répond pas. Et il y a bien entendu, malheureusement, c'est ce qui va faire que très souvent on peut développer jusqu'à des pathologies, c'est-à-dire la relation totalement insécure, où la maman est là, elle laisse pleurer l'enfant parce qu'elle est mal elle-même, ou parce qu'elle est tout simplement absente ou absorbée par autre chose. Et donc ça va vraiment déterminer l'estime et la valeur que je, puisqu'on m'a pas assez accordé de valeur, c'est compliqué de m'accorder moi-même de la valeur. Donc c'est vraiment, ces relations précoces sont très importantes. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se dire, ah ben, parce qu'effectivement il y a eu des relations ambivalentes, voire des relations insécurisantes, que je ne peux pas moi-même construire ma propre estime de moi plus tard. C'est-à-dire que tout est rattrapable. Je fais partie des gens qui pensent que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc à partir du moment où...
C'est-à-dire que vous, à 77 ans, vous pensez encore que vous pouvez restaurer, Linda, l'estime de vous-même.
Absolument, absolument, totalement.
C'est pas parce qu'un enfant, finalement, a une mauvaise estime de soi que c'est pas rattrapable, c'est ça?
Non, tout est rattrapable à tout moment. Il faut juste prendre conscience du degré de mésestime qui s'est installé en lui, dû au fait aux interactions qui n'étaient pas présentes, dû au fait que je ne l'ai pas valorisé en tant que parent, peut-être même dénigré, peut-être humilié, de façon peut-être inconsciente, parce que j'étais dans la reproduction des schémas. Et donc, à ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est de rattraper le coup, en fait. Tant qu'on est conscient des choses, nous avons cette responsabilité devant Dieu de rattraper le coup. Et parce que, encore une fois, il va se nourrir jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Pourquoi 11-12 ans? C'est l'entrée au collège. Donc, il va se nourrir de ce qu'il va lire dans les yeux des parents. Donc, quand les parents, papa, maman, ou même dans la monoparentalité, lorsque je vais lire effectivement de l'affection, certes, mais surtout de je crois en toi, je crois en ta valeur, je vais me nourrir de ça. Et à partir de 11 ans, je n'aurai plus besoin effectivement de cette nourriture. Je vais surtout aller vers le regard des pères. Mais quand je vais, les pères, alors quand je dis pères, ça veut dire les camarades du même âge. Mais quand je vais aller vers le regard des pères, effectivement, si j'ai cette mésestime de soi, de moi, parce que je n'ai pas été assez nourrie, malheureusement, je vais être la proie de beaucoup d'harceleurs. Moi, j'en reçois beaucoup au cabinet, malheureusement, des victimes d'harcèlement, surtout dans la cour de récréation, mais parce qu'on les choisit un petit peu. Et puis quand c'est une question de posture aussi. Vous savez, quand on a une mésestime de soi, on va se renfermer, on a le visage un peu triste, fermé vers le bas, on n'est pas expressif, on n'a pas les épaules en arrière. Et c'est ce que j'apprends aux enfants, en fait, qui sont complètement harcelés, vraiment, qui sont victimes d'harcèlement, je leur apprends déjà, mais c'est une question de posture. Donc déjà, tu vas te remettre droit, mon garçon ou ma fille. Il va falloir vraiment, c'est important de te remettre droit, d'avoir confiance un minimum, de penser que tu es capable et de penser aux choses que tu as pu réussir quand bien même tu réussis pas tout, et d'avancer, et surtout de pouvoir montrer à l'autre que tu n'as pas peur de l'autre, parce que la peur, effectivement, c'est ce qui nourrit la mésestime de soi. Et donc, c'est tout un travail à faire pour qu'il puisse complètement changer cette posture-là et montrer, effectivement, que malgré l'harcèlement, j'ai le droit, j'ai de l'avant, j'ai des valeurs, j'ai des qualités. Vous voyez? Et ça, c'est important, c'est très très important, parce que quand il n'y a pas eu ça de la part des parents, ben malheureusement, très souvent et trop souvent à la cour de récréation, ils ne les ratent pas en fait. Les enfants entre eux sont terribles, sont vraiment terribles. Dire à partir du moment, c'est important, c'est
ils
pour ça que.
Ils sont terribles ou ils sont justes?
Non, ils sont terribles entre eux. Je peux vous assurer qu'ils ne, ils ne se ratent pas. Je vous assure que la cour de récréation, pour moi, c'est vraiment le lieu, le haut lieu où tout ce qui ne peut pas s'exprimer à la maison s'exprime.
Ça veut dire quoi, les enfants sont terribles entre eux?
Ils sont terribles entre eux, c'est-à-dire, ils ne s'épargnent pas. C'est-à-dire quelqu'un, effectivement, ils sentent que quelqu'un a une petite mésestime de soi, qui n'arrive pas à rentrer dans un groupe, etc. Mais ils vont le harceler, ils vont le clasher pendant tout le temps, quoi. Ça va être espèce de mauviette, ça va être des mots très, très crus.
C'est pas l'école de la vie, ça.
Des crus. Si, bien entendu, c'est l'école de la vie. Mais c'est pour ça que la base pour pouvoir faire face à tout ça, parce qu'on ne va pas les rater, c'est d'avoir une belle estime.
Non, je vous taquine quand je dis ça, parce qu'on dit toujours les enfants sont terribles entre eux. Qu'est-ce qui fait que les enfants seraient terribles entre eux? Et que les adultes ne seraient pas terribles entre eux. C'est ça qui est.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a les non-dits, effectivement.
Et les enfants sont peut-être plus francs. Sont peut-être plus francs et donc ils ont peut-être moins de filtres.
Ben oui. Voilà. Il y a les codes sociaux à l'âge adulte qui ne sont absolument pas présents encore chez l'enfant, puis on se permet tout. Toi, tu ne me plais pas, mais je te le dis en plein visage, donc ils sont francs. Alors, est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est effectivement un défaut? Ben, parfois, pour certains qui n'ont justement pas d'estime d'eux-mêmes, c'est réellement une vraie douleur au quotidien.
Et une souffrance.
Une vraie souffrance.
Les parents croient toujours bien faire et surtout, ils veulent protéger leurs enfants des dangers. Ils ont même parfois tendance à anticiper les dangers. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant donc vivre sa vie sans trop l'étouffer, sans trop le surprotéger, pour qu'il puisse justement se construire une bonne estime de lui-même?
Mais tout est l'art, justement. L'art d'être parent est à ce niveau-là, c'est-à-dire trouver la bonne distance. Pas trop près pour ne pas être étouffant, pas trop loin non plus pour être cadrant et sécurisant. Et l'art, c'est vraiment d'avancer, de reculer pour trouver la bonne position. Parce que c'est ça l'important. C'est que élever un enfant, c'est le rendre autonome. Donc c'est surtout pas l'étouffer en lui disant fais attention. Et les parents me disent mais c'est pas de lui dont j'ai peur, c'est des autres. Oui, mais en même temps, vous transmettez à ces enfants juste que la société fait peur et que les autres vont peur, donc vous ne les rendez pas autonomes. Donc c'est vraiment trouver la bonne distance, mais c'est déjà, en tant que parent, être sécurisé avec soi. Parce que quand je ne suis pas, j'ai pas ma sécurité psychique effectivement, ou je ne suis pas à l'aise avec moi-même, je ne peux pas être à l'aise avec mon enfant. Et vraiment en miroir, c'est
les parents ont tendance à penser au pire, hein, jamais,
toujours,
pas jamais au meilleur. S'il arrivait ça.
Avoir un biais de négativité surtout, c'est lorsque je suis au parc, je vois tout de suite mon fils tomber en sang aux urgences, je vois un arbre, non, s'il tombe, ça va, c'est plus possible. Et aller avoir cette faculté en tant que parent de voir que le négatif partout. Subhanallah, la vie n'est pas que du négatif. Donc c'est ce qui est important aussi déjà, mais ce sont les parents qui eux-mêmes.
Même si les dangers existent.
Existent, bien entendu. Mais ce sont déjà des parents eux-mêmes qui ne sont pas sécurisés du tout, qui ont des peurs, qui ont développé des doutes, des peurs, des craintes dans leur vie, qui ont peur de tout, etc. Et peut-être c'est du transgénérationnel. Que ça s'est passé d'une génération à l'autre. Donc l'important, c'est déjà de travailler sur ses peurs. C'est ce que je fais au cabinet. J'ai tant de faire avec mes patients, avec mes parents, en disant, mais vous savez, tant que vous avez peur, il aura peur et vous allez effectivement lui mettre sur les épaules ce dont il ne peut pas porter, c'est-à-dire toutes vos peurs, travaillez vos peurs déjà. On va travailler le pourquoi, le comment, l'origine de vos peurs, pour ne pas effectivement que vous puissiez lui montrer cette image que tout doit lui faire peur, et donc ne pas le rendre autonome, ne pas lui donner une belle estime, encore moins une confiance, parce que quand j'ai pas d'estime, eh ben, je peux pas aller dans l'action, je peux pas avoir confiance en moi. Et vraiment, c'est un sujet très très important. Vraiment, pourquoi? Parce que, à mon sens, et vraiment ce sont mes années d'expérience aujourd'hui qui sont là pour le dire, c'est que je pense réellement que la base, le pilier de la réussite, quelle qu'elle soit, réussite affective, réussite scolaire, réussite professionnelle, la base, c'est vraiment la valeur que l'on s'attribue, et donc l'estime de soi. À partir du moment où je m'attribue une valeur, je développe une belle estime de moi. Du coup, j'ai confiance en moi, puisque c'est l'estime de soi dans l'action. Et ensuite, je suis dans l'affirmation de moi, c'est-à-dire, je suis dans la relation à l'autre. C'est l'estime de soi dans la relation à l'autre qui est l'affirmation de moi. Vous voyez, c'est tout un enchaînement qui vient d'un mot, à mon sens, qu'on appelle la valeur. Et nous, par la grâce de Dieu, dans notre belle religion, ce qui est important de comprendre, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a donné de la valeur. Wala qad karamana bani Adam. Et ça, c'est important de dire que Dieu nous a donné cette valeur-là, il nous a privilégié à travers tous les êtres vivants, nous sommes ses représentants sur Terre. Ce n'est pas rien, c'est-à-dire que à partir du moment où Dieu m'a donné la valeur, comment est-ce que moi je peux me dénigrer et ne pas m'en donner, quand bien même mes parents m'ont dénigré et n'ont pas connu ma valeur? Et ça, c'est important. Et travailler sur ce
les parents qui dénigrent sont des parents qui jouent sur l'estime d'eux-mêmes, de leurs enfants.
Énormément. Ben, ils dénigrent parce qu'eux-mêmes ont été dénigrés. Jamais un parent va dénigrer parce qu'il a envie de dénigrer. Il dénigre parce que c'est d'un automatisme pour lui, parce que c'est écrit.
Il sait faire comme ça, quoi. C'est comme ça qu'il sait, c'est comme ça qu'on
voit. C'est écrit dans sa mémoire cellulaire qui fait que je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement. Ensuite, quand il prend conscience des dégâts collatéraux de ce que ça donne au niveau avec son enfant, ben, effectivement, et c'est ça le but de la thérapie, c'est de prendre conscience pour pouvoir accepter aussi que ça vienne du transgénérationnel que je suis en train de reproduire, et accepter, c'est aussi pouvoir changer, vous voyez. Donc c'est vraiment tout ça, mais travailler avant tout sur ce socle-là qui, pour moi, le terme de valeur, qui est fondamental pour pouvoir développer une belle estime, confiance et donc une belle personnalité.
Bien, on parle de l'estime de soi chez les enfants ce matin avec Linda Benjaffer. Comment aider vos enfants à se construire une bonne et belle estime d'eux-mêmes? Vous pouvez poser vos questions en direct au standard 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Linda Benjaffer est avec nous, psychologue et conseillère d'orientation. Linda, nous parlons ce matin de l'estime de soi chez les enfants et surtout comment les parents peuvent aider leurs enfants à construire une belle estime de soi. On est entre les parents qui sont trop entraîneurs, hein, qui sont surentraîneurs, qui sont toujours en train de féliciter leurs enfants. Et puis il y a les parents qui, d'un autre côté, sont toujours en train de leur dire bah non, tu n'y arrives pas, tu es nul. Quel est le bon niveau quand même? Par exemple, la façon dont on doit féliciter et encourager les enfants.
Donc je pense effectivement qu'il est très important, et ça j'en démords pas, de toujours valoriser. Je pense qu'on ne valorise jamais assez trop. Mais valoriser effectivement, sans pouvoir mettre le doigt aussi sur les incompétences, sur les manquements, sur les défauts, non, effectivement, c'est vraiment mettre cet enfant dans un bisounours et lui faire croire qu'il est parfait partout. Non, c'est aussi lui faire prendre conscience de ses limites. Donc je fais, par la valorisation, je te fais prendre conscience que tu es absolument capable et j'en suis persuadée et je te connais, etc. Certes, ça c'est très important de le dire plusieurs fois dans la journée, mais aussi de dire, ah là tu vois, là c'est un peu difficile pour toi, je pense que là tu n'y arriveras pas, mais ce n'est pas grave, on va essayer de contrer ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il va connaître ses faiblesses, il va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de compensation. Il va aussi essayer de compenser ou de contourner son manquement et sa faiblesse, parce qu'il est conscient qu'il est faible, qu'il est dans cette faiblesse-là ou dans ce manque ou de cette incompétence. Enfin, on a tous une compétence dans un domaine et pas dans l'autre. Donc, l'important, c'est de lui faire prendre conscience. Et tant qu'il en est conscient, ça ne veut pas dire aussi le dénigrer à travers cette incompétence. C'est vraiment lui dire, bah, tu vois, là, tu n'y arrives pas. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour y arriver?
Mais l'estime de soi, c'est avoir une vision réaliste de soi-même.
Totalement.
Bon, alors, il y a quand même des matières sur lesquelles on est plus ou moins doué, on va dire. Bon, les maths, le dessin, ou l'expression artistique.
Et donc, l'important, c'est de le savoir. Et ne pas s'arrêter juste, effectivement, aux matières premières, mathématiques, français, etc. Et ne pas aller voir qu'effectivement, il peut avoir des 17 et des 18 en technologie ou en matière artistique ou en sport, parce que c'est important et parce que ça décrit une intelligence à part entière. L'intelligence au niveau du corps, c'est aussi d'une intelligence. Parce que je sais comment manier, etc. Et que je suis très bon. Une intelligence artistique, c'est une intelligence à part entière aussi. Et ça, c'est important de pouvoir le noter et lui dire, bah, tu vois, là où t'es compétent, comment est-ce qu'on peut faire justement aussi, stratégie de compensation, pour pouvoir faire un petit peu la même chose, et décris-moi ce qu'on appelle la métacognition, j'en parle souvent, métacognition, décris-moi comment tu réussis quand tu vas faire du judo et quand tu réussis vraiment, ou quand jeu vidéo, tout simplement, quand tu arrives à passer d'étape en étape, comment est-ce que tu fais? En fait, il met en place des stratégies, s'en rend même pas compte, elles deviennent inconscientes. Et donc, c'est les rendre conscientes pour pouvoir les réutiliser dans d'autres domaines où il est un petit peu plus faible, transfert de compétences. Et du coup, on les transfère, et ça se passe toujours très bien. Pourquoi? Parce qu'on a conscientiser effectivement là où ça va super bien, conscientiser là où ça va mal, et comment faire pour contrecarrer l'un avec l'autre.
Alors nous avons Malika qui est avec nous, 01 53 48 3000. Malika, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Moi je voulais juste poser une question. Je voulais savoir quels étaient les impacts en fait sur les personnes adultes ou, et dont les enfants, du racisme, des discriminations, de l'exclusion et des préjugés sur l'estime de soi et sur le développement personnel des personnes. Voilà.
Merci pour cette question. D'abord, merci. Bonjour et merci à vous, Malika. En fait, oui, effectivement, c'est pour ça que je dis, à mon sens, et je me répète, désolé, mais que c'est vraiment la base de la réussite dans la vie et la base du bien-être dans la vie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je connais ma valeur et ma valeur est solide et mon estime est solide. Mais en fait, rien n'aura raison de moi. Je connais tellement ma valeur que quoi qu'il puisse se passer, quand bien même c'est douloureux parce qu'on reste des êtres humains, eh ben je peux outrepasser ça justement. peu importe la discrimination, qu'elle se fasse dans la cour de récréation, comme je disais, ou sur mon lieu de travail demain, ou au niveau sociétal.
Et la discrimination, ça a un impact sur l'estime de soi-même.
Toujours, toujours. Mais c'est pour ça qu'il va falloir la renforcer. Je veux dire, plus elle va être renforcée, moins elle aura d'impact. Elle a toujours de l'impact parce que c'est toujours douloureux, parce que c'est une injustice réelle. Et donc l'injustice, l'être humain, ben non, il n'est pas forgé pour pouvoir supporter l'injustice, pour la supporter, mais tout dépendra de son degré d'estime de soi, donc de la valeur qu'il s'accorde et qu'on lui a accordée. On revient toujours aux bases. Quoi qu'on puisse traiter au niveau sociétal, on revient à la base qui est, à mon sens, réellement cette valeur qu'on nous accorde. C'est ce qui va faire que pour quelqu'un, eh ben, il va complètement s'évanouir, il va complètement tomber. Et vraiment, il va se ramasser parce que ça va être trop compliqué. Mais oh, il m'a touché en plein corps, mais tu te rends compte ce qu'il dit de moi. Alors qu'un autre qui aura un minimum d'estime de soi, quand il va être insulté, par exemple, il va pas dire, mais j'ai été insulté, parce que du coup, c'est donner du pouvoir à l'autre. C'est, il a proféré des insultes. Et là, du coup, avoir cette distance-là n'est possible qu'à partir du moment où je connais un minimum ma valeur et j'ai développé un minimum d'estime de moi. Vous voyez, Malika ?
Oui. Non, mais je voulais juste dire que c'est compliqué d'avoir de l'estime de soi quand les parents, nos parents, nos grands-parents n'ont pas été malheureusement reconnus, appréciés, valorisés, etc. Où à chaque fois on leur a fait sentir qu'ils étaient inférieurs et illégitimes.
Totalement.
Donc du coup c'est compliqué pour nos parents de nous transmettre en fait.
Je suis totalement d'accord.
De transmettre en fait à leurs enfants des choses que eux-mêmes n'ont pas acquis, et même si combien même ils l'ont acquis, tout a été fait pour le saboter, quoi.
D'accord. Mais alors vous, en tant que parent, après Malika, comment est-ce que vous l'avez transmis à vos enfants? C'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Ah ben moi je suis éducatrice de formation.
Ouais.
Donc du coup j'ai la chance à la fois d'éduquer les autres et d'éduquer aussi les miens. Ouais. Et donc du coup moi à chaque fois je suis stricte, mais je laisse beaucoup d'autonomie. Et c'est vrai, comme disait je me rappelle plus
Linda,
moi à chaque fois combien même ils se trompent, je dis c'est pas grave, même s'ils font tomber quelque chose, je dis c'est pas grave, ça arrive. Même moi ça m'arrive de faire tomber des choses, donc à chaque fois je minimise les choses pour pas que mes enfants ou les enfants des autres dont je m'occupe se sentent complètement apeurés. Donc voilà, donc j'essaye à chaque fois de
valoriser
les choses, bien sûr.
Bravo.
J'essaye de minimiser les choses, j'essaye de reprendre, j'essaye de valoriser l'enfant ou mes enfants en leur disant c'est pas grave, aujourd'hui t'as pas réussi, mais demain tu vas réussir.
Bravo.
Là tu vois t'as une mauvaise note, mais la fois d'avant t'en avais une bonne, donc c'est pas grave, on va juste travailler un peu plus et puis tu vas, il y a pas de raison, quoi. Il y a des autres qui, il y a plein d'enfants qui réussissent, pourquoi pas toi?
Bravo, mais exactement.
Donc,
mais
voilà, je suis là-dedans, moi.
Mais c'est justement parce que vous avez totalement des dégâts collatéraux, effectivement, des générations précédentes, effectivement, de l'impact que ça a eu sur eux, qu'aujourd'hui vous essayez, effectivement, tant bien que mal, hein, autant que vous le puissiez, parce que vous avez cette conscience-là, donc vous ne voulez pas être dans la reproduction, et bravo, et je vous applaudis. C'est exactement ce que je dis depuis le début. C'est important de ne absolument pas être dans la reproduction, mais je ne peux être ne pas être dans la reproduction que si j'ai conscience des dégâts que ça. Et c'est votre cas. Et donc, vous essayez de parer au quotidien comme vous pouvez, que ce soit avec les enfants ou les enfants des autres. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, quand bien même c'est difficile.
Merci Malika pour votre intervention.
Je vous en prie, au revoir.
Merci. Au revoir. Salima, au 01 53 48 3000. Bienvenue, Salima, sur leur FM.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, voilà, moi, en fait, ma question, c'est plus peut-être un témoignage qu'une question.
Oui,
c'est-à-dire que nos enfants, si nous, autant que parents, on leur donne pas confiance en eux, ils pourront pas avoir confiance.
Merci, bravo.
Donc oui, moi malheureusement, c'est un témoignage que donne, j'aimerais bien partager avec tout le monde, surtout les écouteurs de Beurre FM, c'est que j'ai mon fils maintenant qui a 19 ans. Et depuis qu'il était petit, donc il avait quand même une relation assez spéciale avec son père. Et son père, il était toujours là sur lui. C'est bon à rien, tu réussis jamais, t'es intelligent, mais tu travailles pas. Donc vraiment, sa scolarité, elle était un échec. Mais le pauvre, je veux dire, l'école, il a pas réussi l'école. Mais maintenant, il se comporte comme un bébé, en fait. Dès qu'il fait un petit truc, genre un beau travail ou... Je sais pas comment vous expliquer. Il est là. Maman, t'as vu, hein, j'ai bien fait, hein, maman. Hein. Dis-moi, c'est bien fait. Donc il est toujours là, même à 19 ans, elle en a besoin que qu'on lui dise oui, c'est très bien, c'est bien fait, tu peux le faire.
Vraiment, barakallahu fik, merci infiniment. Tout ce que vous dites est d'une justesse, subhanallah. En fait, effectivement, cet enfant-là, malheureusement, pendant toute sa vie, donc il a été dans le dénigrement. Et sachez qu'un enfant ne peut pas s'autoriser à aller au-delà de ce que ses propres parents puissent dire de lui. Et quand bien même il peut avoir quelques compétences, il peut pas par lui-même se dire oui, je suis compétent. Et donc il va rester toujours dans cette incompétence. Et, il va toujours se juger. Se juger ben, pas à la hauteur, en fait, parce qu'il a jamais été à la hauteur.
À 19 ans, Linda, on recherche pas la reconnaissance de ses parents, on recherche pas de faire bien dans les yeux de ses parents.
C'est important, puisque jamais il a pu faire bien. Donc, en fait, il est non-stop, toujours en train, à l'école, comme avec ses amis, toujours en train de se prouver à lui-même qu'il est capable. C'est ça, en fait. C'est comme si qu'il avait une dette quelque part qu'il poursuit toute sa vie en disant, mais est-ce que je suis vraiment capable? Et d'ailleurs, la preuve, il attend encore l'approbation dans les yeux de maman. Alors, maman, est-ce que j'ai bien fait? Et c'est de la même façon avec les copains aussi. Le gros problème,
voilà,
c'est que ça doit être aussi le copain lui dire, alors, tu crois que c'est bien ce que j'ai fait? C'est pas bien. C'est juste terrible, en fait, d'arriver toute une vie. Et parfois, j'ai des personnes de 50 ans qui sont exactement au même niveau parce qu'ils n'ont pas pu travailler sur cette estime d'eux-mêmes, en fait. Et donc, ils arrivent à 50 ans à me dire, mais voilà, pour moi, je suis juste incapable. Alors qu'ils ont fait des choses extraordinaires qu'ils n'arrivent plus à voir, en fait. Parce qu'ils n'arrivent plus à s'autoriser à se dire, mais c'est moi qui suis qui était capable de faire ça. C'est pour dire combien, machallah, merci beaucoup pour votre témoignage, combien est fait les dégâts collatéraux du fait, effectivement, et délétères du fait que dès le départ, il n'y a pas eu cette valorisation permanente.
Voilà, c'est pour ça, moi, mon témoignage, là, c'est à tous les parents.
Merci.
Ayez confiance en vos enfants, encouragez-les, malgré qu'ils font des fautes, ben, je ne sais pas moi, qui ne réussissent pas à l'école, mais quand même, mon fils ou ma fille, oui, tu peux le faire, tu peux diriger vers autre chose.
C'est exactement ça, ma chère sœur.
C'est vraiment un conseil à tous les parents.
Barakallahu fik. Et surtout, verbalisez-le. Nous sommes dans une communauté, il faut dire, malheureusement, de l'implicite. Tout doit être su sans être dit. On n'est pas dans l'explicitation des choses parce qu'on ne nous a pas appris à être explicite et à dire les choses. Et donc, c'est à nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on a la compréhension, on a Internet, on a l'ilm que nos parents n'avaient pas. Ils ont des circonstances atténuantes que nous n'avons pas. Et donc, on sait aujourd'hui combien ça peut détruire, et c'est vraiment le mot, hein, il n'est pas assez fort, détruire une vie entière. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir nous-mêmes nous réformer en tant que parents et faire passer ce que nos parents n'ont pas pu, malheureusement.
Qu'est-ce qui fait votre fils de 19 ans aujourd'hui, Salima?
Là, il travaille dans les boîtes d'intérim. Donc, voilà. Ils enchaînent les émissions. Donc, il est content de lui.
Oui.
Donc, moi, je l'encourage.
Que Dieu lui facilite, mais est-ce que ça veut dire que pour lui, dans sa tête, derrière ça, il n'est pas capable d'avoir un CDI et de se lancer dans quelque chose? Est-ce qu'il va un petit peu naviguer à droite, à gauche, à faire juste des petites missions? Peut-être que c'est à la hauteur de l'image qu'il a de lui-même, en fait. Peut-être qu'il ne vaut pas mieux que ça. Et donc, vraiment, question de valeur.
J'ai l'impression qu'il est en train de montrer à son père que je peux travailler, je peux me lever à 5 heures du matin même pour aller travailler. Et ramener ma paix.
Donc encore à prouver quelque chose, c'est terrible.
Je pense qu'est-ce qu'il est en train de faire là.
Donc l'important, c'est de lui dire, est-ce que tu es en connexion avec tes valeurs? Est-ce que ce que tu fais, ça te va? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça répond à tes besoins, à tes désirs? C'est important de lui dire, aujourd'hui, tu sais mon garçon, tu n'as plus rien à prouver à personne. À personne, ni à papa, ni à moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que tu sois en adéquation dans ce que tu fais, avec ce que tu vis, et avec tes désirs, tes besoins, et ce que tu es réellement et tes valeurs. Et ça, c'est important de le reconnecter, s'il vous plaît, avec ses valeurs, parce que là, il est juste dans j'ai besoin encore de l'approbation des autres et montrer à papa et prouver. T'as rien à prouver, t'as 19 ans. Alhamdoulilah, moi, je crois en toi. Et quand bien même, papa, c'est important aussi de dire, papa, tu sais, s'il a été comme ça, c'est parce qu'il a vécu ça lui-même, etc. Ne lui en veux pas, il est comme il est. L'important, c'est ce que tu vas devenir, toi.
Ah, c'est ce que je lui dis. Son père, peut-être il a eu une enfance très difficile, peut-être.
Allah yakhlihou lak.
Mais bon.
Allah yakhlihou lak, inchallah. Allah yaftah lak al-abwab, inchallah.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, ma chère sœur.
Merci Salima pour votre témoignage.
Terrible.
Merci beaucoup, de rien. Au revoir.
Linda, quand on a plusieurs enfants, on le verra après la pause d'ailleurs, justement de savoir comment on fait, parce qu'on a toujours tendance à comparer un petit peu ces enfants les uns aux autres. Si vous avez des questions à poser sur l'estime de soi, et on parle bien sûr de l'estime de soi des enfants ce matin, vous témoignez, vous posez vos questions à Linda Benjaffer au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
votre santé. On parle de l'estime de soi de vos enfants ce matin avec Linda Benjaffer. Les enfants sont des éponges, hein, Linda. Ils prennent souvent leurs parents comme modèle. Et les enfants apprennent beaucoup en imitant et en copiant leurs parents. Mais comment est-ce qu'on peut aider ses enfants quand soi-même on a une mauvaise estime de soi ?
C'est déjà prendre conscience qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes et pouvoir travailler.
On ne le sait pas forcément ?
Non, on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai qu'on va devoir un petit peu évaluer son discours intérieur en fait. C'est-à-dire, si je me dis beaucoup trop souvent que je n'y arriverai pas, que je suis juste une incapable, que franchement ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc. Et c'est que quelque part, oui, peut-être que non seulement vous avez une mauvaise image de vous-même, mais que vous allez la transférer de toutes les façons parce que les neurones miroirs, comme on dit, font que vous êtes l'exemple même de vos enfants et qui vont se... Ils ne vont pas pouvoir dépasser votre niveau d'estime de vous-même. C'est-à-dire que je ne peux pas m'autoriser, moi, à aller mieux et à croire en moi, alors que ma maman ne me croit pas en moi. Vous voyez, c'est vraiment le gros problème. Et du coup, votre devoir, à un moment-là, c'est de travailler déjà, d'essayer de comprendre la source, parce qu'à mon sens, on ne peut pas changer un comportement tant qu'on n'en comprend pas la source, puis tant qu'on ne l'accepte pas, accepter effectivement que je sois dans cette mésestime de moi, accepter que je ne m'accorde pas de valeur, l'accepter pour pouvoir changer y remédier. Et c'est parce que j'y remédie effectivement que, par contamination, mon enfant va s'autoriser lui-même à avoir une belle estime de lui, voyez.
Alors Linda, je vous propose d'accueillir Aïcha. Aïcha, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïcha.
Oui, mais en fait, j'avais une question. C'est parce que moi-même, j'ai été victime de mauvaise estime de moi-même pendant mon enfance.
Oui.
Et je me rends compte que je repousse un peu mon fils, je repousse, je vais vers lui, je suis un peu confuse dans mes émotions en fait. Et je ne sais pas comment éviter de transmettre ça à mon fils.
Alors, j'ai juste pas entendu, vous avez dit je le repousse et je vais vers lui, j'ai pas. Excusez-moi.
En fait, parfois je vais vers lui, parfois c'est un peu. Mes émotions sont un peu confuses, je vais vers lui, je repousse, c'est un peu.
C'est ça.
Mélangé.
En fait, vous n'êtes pas déjà en accord avec vous-même. Vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, ça vous échappe un petit peu. Votre comportement vous échappe. Parfois, vous êtes proche. Parfois, vous êtes loin. Vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu dont on parlait. Et vous n'arrivez pas à gérer vous-même vos propres émotions. C'est ce que j'entends, Aïcha.
Oui, c'est ça.
D'accord. Mais c'est dû à quoi, en fait? Est-ce que c'est pareil juste avec votre enfant? Ou est-ce que c'est dans tous les environnements de vos vies? Enfin, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, pardon, que ce soit au quotidien, que ce soit avec votre époux, enfin... Ou juste avec votre enfant? Juste expliquez-moi.
Non, je pense que c'est avec un peu tout le monde.
Un peu tout le monde, d'accord. Donc, oui. Donc vous dites effectivement que vous avez une mésestime de vous-même, c'est ça? Vous pensez?
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
Qui est dû à quoi? Des dénigrements parentaux? Au fait qu'on ne vous a jamais valorisé? Au fait que... Ou peut-être qu'il y a eu de la maltraitance? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui
s'est passé? Plein de choses.
Ben, c'est ça.
Vous avez dit, c'est un peu plein de choses, oui, c'est ça.
C'est
je
pour...
me rends compte, mais je ne sais pas comment...
C'est ça.
Comment faire pour arriver à avoir une bonne estime de moi-même.
D'accord. Moi, c'est déjà énorme que vous puissiez comprendre déjà les dégâts que ça a pu faire sur votre enfant. Ça, c'est important. Maintenant, il va falloir effectivement mettre la lumière sur les sources. Parce qu'il doit y avoir différentes sources du fait qu'aujourd'hui vous en êtes là et que vous avez du mal à vous affirmer. Parce que déjà, quelle est votre valeur? Quand par exemple, très simplement, je vous dis de 0 à 10, j'ai de la valeur à mes yeux à 10 et j'en ai pas du tout à 0, où est-ce que vous vous situez? Ne serait-ce que ça déjà, pour commencer, puisque c'est la base, la valeur, comme je l'ai dit.
J'ai peut-être 3 ou 4, mais bon, après mon fils, il a 2 ans, il a même pas encore 2 ans, ça fait, je me dis peut-être que j'ai encore de... C'est sûr que j'ai encore de la marge pour...
C'est certain, mais déjà, peut-être mieux si vous concentrez sur vous, et quand vous me dites 3 ou 4, moi, ma question tout de suite, c'est de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin, Aïcha, pour passer, à mon sens, de 3 à 10? De quoi ai-je besoin? Et ça va être un exercice.
C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait 10 en valeur d'estime de soi-même.
Mais au moins pour pouvoir être, comment dire, pour pouvoir vraiment avoir confiance et se sentir en sécurité, cette sécurité psychique dont je parle non-stop, c'est vraiment être au minimum à 7, quoi. À 7 où, ok, je sais que parfois ça peut pas, je sais pas trop comment faire, mais j'ai quand même un peu de valeur, quoi. Et quand bien même on m'a pas donné de la valeur, moi j'arrive à m'en attribuer à travers tout ce que j'ai pu effectuer dans ma vie.
Mais est-ce qu'il faudrait être à 10 en fait?
Faudrait être à 10. Il n'y a pas, là c'est juste vraiment pour pouvoir un petit peu jauger où est-ce que j'en suis. 10, oui, effectivement c'est l'idéal, mais ça reste encore, voilà, c'est une dimension qui est pas palpable, 10, entre 7 et 10, dirons-nous, où vraiment j'arrive à aller bien, à aller mieux et à pouvoir m'affirmer et à pouvoir avoir confiance, c'est-à-dire être en sécurité. On est vraiment dans cette recherche de sécurité permanente, surtout quand on ne l'a pas eu petit, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, le but, ma chère Rachel, c'est de te dire, mais ok, mais de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin qu'on me le dise de l'extérieur? Est-ce que j'ai besoin de changer mes ruminations et mes pensées intérieures en me disant, mais non, quand même, là, j'ai réussi et ça veut dire que je peux aussi réussir là? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des feedbacks positifs au quotidien? Est-ce que c'est plus, si c'est le cas, est-ce que c'est plus dans ma famille ou est-ce que c'est plus vis-à-vis de mon époux? J'ai besoin de ce feedback positif? Est-ce que c'est dans mon travail? Vous voyez, c'est vraiment décortiquer tout ça par écrit et essayer de se positionner en se disant, mais quels sont mes besoins? Et ça, en termes de besoins, en fait, personne ne nous l'apprend. Ni à l'école, on se rapproche de ses besoins, ni à la maison, ni dans l'éducation. On vous a jamais dit, mais en fait, c'est quoi ton besoin? Si là, aujourd'hui, tu es pas bien, et c'est pour ça que vous êtes en déconnexion avec votre émotion un petit peu, parce que le rôle d'un parent, c'est de dire, mais tu vois, là, je te vois en colère, en fait, mais c'est quoi ton besoin? De quoi tu as besoin pour être moins en colère? Quel est le besoin qui n'a pas été assouvi qui fait que tu en es là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le sait très bien, le besoin qui n'a pas été entendu, encore moins assouvi, c'est le début de la violence. On se fait violence à soi, on fait violence à l'autre. Ça, on le sait. Et donc, en termes de besoin, c'est revenir à l'essence même, à l'essentiel, et se dire, mais c'est quoi mon besoin, en fait, qui n'a pas été entendu? C'est quoi, quel est surtout mon besoin pour pouvoir passer de 3, allez, disons, à 7 à 10, peu importe, mais à augmenter mon estime de soi? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie qui fait que je ne peux pas y arriver? Et effectivement, vous avez de la marge, mais le plus tôt sera le mieux, parce qu'il va se construire. Là, il est 2 ans, c'est l'âge où il affirme sa personnalité, où il va te dire non, où vraiment sa personnalité s'installe. Et c'est important, effectivement, qu'il ait des feedbacks positifs maintenant, en lui disant, mais je sais que tu es capable, mon gamin, je sais que tu y arrives. Mais c'est vrai que quand on est...
Je le motive quand même, quand il tombe, quand il fait une erreur, je peux dire ça comme ça.
Je comprends.
J'essaie de motiver, mais après, moi-même, en fait, je sens que je m'éloigne. Je suis là, mais je m'éloigne en même temps, en fait.
C'est pas lui, en fait. C'est pas vraiment pas lui du tout le problème, cet enfant-là. C'est vraiment vous qui êtes aux prises avec vos propres émotions et qui avez du mal, effectivement, à mettre des mots dessus, mal à mettre de la distance vis-à-vis de vos propres émotions. Et ça, c'est un vrai travail thérapeutique qu'il faudrait effectivement faire. Hein. Quand on dit travail thérapeutique, ça va pas durer des années. Hein. Ça peut durer en quelques séances, effectivement, prendre conscience de certaines choses et effectivement changer son comportement, accepter et aller mieux très vite, ma chère sœur. Tout est possible, tout est faisable à partir du moment où on en prend conscience et quand on prend conscience des dégâts collatéraux délétères de cette mésestime. Mais il n'est jamais trop tard. Le fait que vous appeliez aujourd'hui et que vous en preniez conscience et que vous en parlez, alhamdoulilah, ça veut tout dire. Ça veut dire effectivement vous avancez déjà parce que vous avez pris conscience vers le mieux-être et vers le meilleur estime de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Merci.
Que Dieu vous aide.
Merci Aïcha. Pour votre appel. C'est Radija qui est avec nous au 01 53 48 3000. Radija, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour et salam alaikum Linda. Donc ça fait longtemps que je voulais vous avoir au bout du fil. Alhamdoulilah.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur.
Alors voilà, j'avais juste est-ce que je peux poser 2 questions ou pas?
Oui.
On fera un tarif de groupe le lundi.
Il y en a une qui va être très rapide. C'est parce que je voulais juste revoir. Vous savez, par rapport à l'agence intérim, vous avez dit à une sœur avant, à une dame, que en gros c'était peut-être par rapport à son fils là.
Oui.
Que il voulait pas s'engager par manque d'estime de soi.
Pour le CDI. Vous dites,
oui. D'accord. Oui.
Voilà. Mais au fait, moi, c'est pour moi là. La chose que je dis toujours à mes enfants, allez dans les agences intérim parce que d'une, vous êtes jeune.
Oui.
Allez voir différents, je veux dire, boulots, différentes personnes, publiques.
Totalement.
Et après, voilà. Et parce que je voudrais, je sais pas si ça vient de moi, mais en fait, je voudrais pas qu'ils aillent signer un CDI, ils sont jeunes, à 19 ans, leur dire signer un CDI. Est-ce que c'est une faute de ma part de leur parler?
Absolument pas. Non, vraiment pas.
Mais la question, c'est est-ce que ne pas vouloir signer de CDI, est-ce que c'est la peur de s'engager?
Non, de les encourager maintenant à 19 ans.
La motivation est différente. Voilà. En fait. C'est ça, en fait. C'est une question de motivation. C'est-à-dire que là, vous les motivez à aller voir plusieurs genres de métiers, etc., plusieurs domaines d'activité. Et c'est très, très bien. Pour pouvoir enrichir leur potentiel, c'est juste magnifique. Mais la motivation n'est pas la même. Maintenant, est-ce que ce jeune homme de 19 ans, effectivement, qui le fait pour prouver à son papa qu'il est capable, etc., est-ce que. Moi, c'était juste une question. C'était pas du tout un constat. C'était une question vis-à-vis de l'autre personne en disant, mais soyez sûr, effectivement, qu'il le fait par plaisir et non pas juste pour se prouver quelque chose. Mais maintenant que vous puissiez le dire à vos de façon très consciente à vos enfants, tout en argumentant, en disant voilà pourquoi je veux que tu fasses ça, c'est parce que je sais que ça va être riche, un vrai potentiel, etc. C'est la différence est là en fait. C'est la motivation, comment je motive ma demande en fait. C'est juste ça.
D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, par rapport à lui, c'était un enfant surdoué et on l'appelait le futur médecin.
Ok.
Et arrivé en premier S, il a tout arrêté.
Ok.
Et je sais pas pourquoi il a arrêté et.
Alors le but...
vraiment, vraiment souffert. Pendant deux ans,
alors,
je me suis dit, il a tout fait pour moi, mais il a rien fait pour lui.
Mais c'est vraiment bien ce que vous dites là, parce que c'est ce que je vois beaucoup au quotidien, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les hauts potentiels, les enfants qui ont plus de 130 de QI, etc., malheureusement, si ce n'est pas accompagné par une belle estime d'eux-mêmes, pour moi, c'était pas du tout le garant d'une réussite, en fait, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que je peux avoir 130 de QI, mais je me sens incapable de faire quoi que ce soit. Et là, peut-être que
c'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on a une bonne estime de soi-même.
Mais surtout qu'il a été décrit comme étant surdoué, ça veut dire que les attentes des autres étaient très, très élevées. Et donc, monsieur médecin, ça veut dire qu'on attend de toi. Mais lui, arrivé à un moment, s'est senti totalement incapable d'être à la hauteur des exigences des gens qui l'entourent, juste parce que j'ai cette étiquette de surdoué. Et donc là, rentre en compte quoi? Ben, l'estime de soi. Et donc, c'est un très bel exemple que vous nous apportez, Barakallahou Fik. Et donc, l'important, effectivement, c'est de savoir où tu en es. Ok, t'es surdoué, c'est une chose, c'est très bien, tant mieux, ça va te donner des facilités dans la live. Mais sache que sans estime de soi.
Dans la
vie, pardon, autant pour moi, dans la vie. Et donc, du coup, l'important, en fait, c'est comment toi, tu te considères. C'est pas comment les autres t'ont considéré à travers cette étiquette de surdoué, de ce que peuvent attendre les autres de toi. Qu'est-ce que toi, tu attends de toi? Comment tu es capable? Est-ce que tu te sens capable? Etc. Peut-être que t'as pas les épaules pour faire médecin. Ok, peu importe. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Le réconcilier avec celui et ses valeurs, et peu importe l'étiquette, qu'elle soit positive ou négative. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que ouais, l'estime de soi, c'est la réussite.
Ouais, non, mais là,
pardon?
Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que je me suis trop reposée sur sa réussite. On a tellement dit, c'est bien, super, super.
Vous savez.
Lui, j'ai pas écouté du tout.
Et vous savez, ma chère soeur, j'ai travaillé pendant très longtemps dans la cellule des décrocheurs scolaires, dans l'éducation nationale, dans plusieurs rectorats de France. Et je peux vous assurer qu'il y avait le même constat. C'est-à-dire 65% des décrocheurs scolaires qui s'arrêtaient en fin de troisième, on a fait quand même des statistiques, étaient des précoces qui s'ignoraient et qui n'avaient aucune estime d'eux-mêmes. Vous voyez, je veux dire, ils avaient d'énormes compétences, mais comme ils se sentaient incapables, eh ben, ils sont arrêtés en fin de troisième. C'est pour vous dire. C'est pas parce qu'il est précoce que ça y est, il va réussir, il va devenir médecin, etc. Vous voyez, c'est ça qui est important aussi. Et d'où faire attention avec cette étiquette de précoce, parce que parfois, ils ne réussissent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Point. Point. D'accord.
Mais le fait que nous, en parents, parce qu'en fait, je vous le cache pas, j'étais contente, honnêtement, je le regardais, je disais, heureusement que toi, machallah, heureusement que, voilà, tout est facile pour toi, tu y arrives, regarde, t'as pas besoin de travailler, parce qu'il avait juste besoin d'être en cours. En fait, je pense, j'ai rien vu, en fait.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il a des frères et sœurs, Khadija?
Ah là là, ça c'est la deuxième question. Maintenant, j'ai un 10, un multi-10.
Ok.
c'est tout le contraire. Jusqu'en CM2, on me disait, à part les maths et hormis la géométrie, parce que c'est difficile pour lui, on m'avait dit, oulala, ça va être dur pour lui.
Ok.
Donc, c'est vrai que je ne vous décris pas ce que c'est la 10. Je pense que vous comprenez,
oui, oui.
Vous savez un peu, parce qu'on en avait, voilà. Donc, lui, il a eu la chance d'avoir beaucoup d'adultes autour de lui qui l'ont suivi, même si c'était une demi-heure. Mais qui ont donné cette confiance, en fait.
Ah, voilà.
Voilà. Donc, lui...
Si toute la différence est là.
Voilà. Ça. Juste avec la parole, il y a beaucoup d'adultes qui me disent non, on préfère plus discuter avec lui qu'avec moi. Hein. Moi, je vous dis.
C'est terrible.
Ah non, mais c'est clair. Hein. Mais là, quand en CM2, on me dit, oh là là, il va avoir des grosses difficultés, tout ça, je me suis dit, oh là là, okay, au moins, je vais faire en sixième. Parce que voilà, la sixième arrive... Donc les 12 matières, là je vois, bon, il a presque 15 de moyenne, certes, mais c'était de la révision, je commence à voir les notes, c'est des 10, c'est des 11, et il commence à paniquer, quelque chose, j'arrive pas, et je vais vous dire honnêtement, Linda, quand il arrive l'après-midi, il est sous tension.
Je sais ce qu'il vit le matin parce qu'il met toute son énergie dedans.
C'est ça.
Donc quand il arrive, la seule chose que je lui demande, ça s'est bien passé. Et je lui dis, franchement, je ne le cours plus après les devoirs.
Et vous avez tellement raison.
J'ai tellement peur de le braquer.
Bien sûr, parce que pour compenser son multidis, il va mettre en place des stratégies qui sont coûteuses énergétiquement, en fait. Ils sont très, très coûteux. Et donc, du coup, il va devoir se concentrer deux fois plus que là où les autres se concentrent à peine, devoir vraiment lire et visualiser ce que les autres ont des facilités, lui pas, etc. Et donc, le soir, il est juste exténué. Donc, effectivement, il ne faut plus parler de devoir le soir avec ces enfants-là. Mais là, vous dites quelque chose de très juste dans ce que vous dites. Et vraiment, merci infiniment pour votre témoignage. Vous expliquez simplement que deux étiquettes, d'accord, que ce soit le multidis ou l'avenir de ces deux enfants, enfin en tous les cas, la façon avec laquelle ils sont au quotidien est vraiment régie, pas du tout par leur étiquette, mais vraiment par leur estime de soi. Et vraiment, c'est un très beau témoignage. Dans le sens où un multidis, quand il a été valorisé toute sa vie, mais tu réussiras. Après tout, le plus grand des cancres et le plus grand des multidis, c'est bien Einstein, il a réussi. Donc, ok, ouais. Il avance. Et il y arrive, pourquoi ? Parce qu'il connaît sa valeur malgré son handicap, enfin, entre guillemets, handicap de 10, d'accord ? Oui. Mais le problème de l'autre, c'est que l'autre enfant, c'est que oui, on lui a mis une super étiquette, ça veut dire, mais tu dois réussir à tout prix, alors que t'as pas d'estime de soi derrière. Donc comment je fais ? En fait, je suis handicapé. En fait, il est beaucoup plus handicapé que le deuxième, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça. Et donc le moyen, surtout ne les comparez pas, je sais pas du tout où est-ce que vous en êtes dans la comparaison, ce que vous dites, c'est tout le contraire, mais en même temps... Je vous connais tous les deux, vous êtes capables tous les deux, c'est le discours que vous devez dire, et surtout travailler sur l'estime de soi du haut potentiel. Travailler là-dessus. C'est ça qui est très important, ma chère sœur, parce que ça va définir sa réussite. Vraiment la valeur. Al-qima, bilougat al-arabiya. Al-qima li'ando. Il a qima pour vous dans vos yeux, mais il a de la valeur parce qu'il est compétent, parce qu'il y est arrivé. Et lui rappeler toutes ses réussites, et le mettre en situation de réussite. Pour qu'il puisse vraiment encore s'auto-valoriser. Et ça, c'est fondamental, ma chère sœur.
Parce que pour le deuxième, c'est pour le 10, c'est pour le petit, ça.
Moi, je parle pour le haut potentiel qui a du mal.
Et qui c'est le grand.
Voilà, c'est le grand. On parle bien du c'est le grand. Voilà.
C'est ça. Ouais. Celui qui s'est arrêté en première S parce qu'il ne s'est pas senti de faire médecin.
Voilà.
C'est lui, on est d'accord.
Oui, oui.
Ok. Voilà, donc... Bien sûr, renforcer l'estime de soi des deux, ça c'est très important, mais peut-être encore plus davantage de celui qui a cette étiquette et donc qui a une obligation de résultat quelque part. Quand on a une étiquette comme ça, ben c'est ça le gros problème aussi, c'est d'être à la hauteur. Et qu'est-ce qui va être le booster et le motivateur de ça ? Eh ben c'est l'estime de soi. On en revient toujours à la base, c'est la valeur que je m'attribue.
Merci Radija pour votre question. Merci à tous d'avoir témoigné ce matin. Linda, on vous retrouve très bientôt dans deux semaines sur Beurre FM. Avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on parlera des décrocheurs scolaires. Plaisir. Passez une bonne journée sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant.